affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans la vie, tout est question de point de vue. Un pas de côté, ce que l'on observe prend un autre aspect, révèle une facette inattendue, prend une nouvelle coloration, parfois imperceptible, mais qui change tout. Ce que l'on croyait connaître prend alors une nouvelle nuance, un relief inédit. C'est l'expérience qu'ont faite et même recherchée Jean-Arnaud Derrins et Laurent Gélin. Journalistes spécialisés dans l'Europe orientale, les Balkans et le Caucase, qu'ils arpentent et étudient depuis une vingtaine d'années, ils ont décidé de les aborder d'une nouvelle façon. Aborder, c'est le mot juste, car ils s'y sont rendus et l'ont réexploré à bord d'un voilier, dans une posture nouvelle, non de journaliste, ni bien sûr de touriste, mais de voyageur. Des voyageurs d'un genre un peu particulier tout de même, des voyageurs munis d'un carnet et de stylo, pour prendre des notes, fixer des impressions. Et c'est heureux car cela a donné un très beau livre, à la fois récit de voyage, carnet de bord et rapport d'étonnement. Ce beau livre est titré « Là où les eaux se mêlent, des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins ». Et il a reçu le prix Louis Castex, décerné par l'Académie française. Il se compose d'une cinquantaine de chapitres courts, qui sont autant de brefs reportages. C'est pourquoi, en guise d'émission, je leur ai demandé de nous confier à tour de rôle une surprise, un lieu singulier ou une émotion ressentie de façon particulièrement aiguë. Et comme les voyages, messieurs, sont avant tout faits de rencontres, je voudrais que vous commenciez par là, par nous conter des rencontres réalisées au fil de votre voyage. Laurent Gélin, voulez-vous commencer ?
Oui, tout à fait. Merci de cette belle introduction. Effectivement, le voyage, c'est des rencontres. Et les rencontres nous ont accompagnés pendant les 4 mois de navigation que nous avons passés à bord du bateau, à arpenter les rivages de l'Adriatique, de la mer Égée, puis les rivages de la mer Noire. Chaque étape nous amenait d'un point à un autre, et évidemment, ces étapes ont été enrichies, accompagnées par des personnes que nous avons rencontrées, certaines par hasard, d'autres que nous connaissions. Et effectivement, ces figures restent pour nous comme des bouées, des endroits où s'amarrer dans le souvenir que nous gardons de cette péripétie. Alors évidemment, les gens que nous avons rencontrés sont très nombreux. Moi, peut-être, si je devais en citer un, ce serait quelqu'un qui s'appelle David et qui habite dans les confins de la Géorgie, dans une ville appelée Zoubdidi, une ville frontière, en fait, qui fait frontière avec l'Abkhazie voisine, l'Abkhazie qui était autrefois une région de la Géorgie, qui a déclaré son indépendance de la Géorgie au début des années 90, à l'issue d'une guerre sanglante. Et finalement, Zoubdidi se retrouve, je dirais, enclavé à côté d'une frontière hermétiquement fermée que l'on traverse avec beaucoup de difficultés. Et David, dans cette ville de Zoubdidi, dont il est originaire, finalement assure à lui tout seul le rôle de militant de la société civile. Il milite au hasard pour la défense des animaux, pour le droit des personnes LGBT, pour l'informatisation des campagnes, etc. C'est une sorte de militant à tout faire de la ville de Zoubdidi. Mais en fait, David, pourquoi cet homme qui avait une quarantaine d'années à l'époque, pourquoi est-il resté à Zoubdidi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour voyager plus loin, pas l'argent nécessaire pour se marier, pour envisager un avenir ailleurs, à Moscou ou à Istanbul ou ailleurs. Et en fait, David nous a ouvert les portes de sa ville, nous a fait rentrer dans l'atmosphère, dans l'ambiance si particulière de Zoubdidi. Et David y est toujours certainement coincé. C'est pour ça que parmi les nombreux personnages que nous avons rencontrés, j'avais envie aujourd'hui de penser à lui.
Et vous, Jean-Arnaud ?
Moi, si je devais citer quelqu'un, alors c'est, bien sûr, c'est forcément compliqué de choisir, puisque tout voyage n'a de sens que s'il est fait de rencontres. Nous avons eu, comme le disait Laurent, énormément de rencontres de nature différente, mais toujours finalement très fortes. Donc choisir est un peu délicat pour le coup. Si je devais choisir spontanément, c'est le nom de Mesut Tufan qui me viendrait en tête. Mesut Tufan est un journaliste, écrivain, documentariste turc, qui a longtemps vécu en France d'ailleurs, que j'avais connu autrefois avant d'entreprendre ce voyage en France, mais que je n'avais pas vu durant des années, qui entre-temps s'était réinstallé à Istanbul, et que nous avons donc retrouvé. C'est une rencontre-trouvaille, mais avec quelqu'un que nous ne connaissions pas dans son univers, dans sa ville, celle d'Istanbul. Mesut habite à Şişli, qui est un quartier du centre d'Istanbul, un petit peu derrière, si vous voulez, des endroits très connus comme la place Taksim. Şişli, historiquement, est un quartier où vivaient beaucoup d'Arméniens. Et Mesut, qui lui-même est turc, de tradition musulmane, issu d'une famille, pour le coup, composée de ce que l'on appelle des muhadjirs, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans les Balkans. C'était le cas de ses ancêtres, et qui ont dû se replier sur la Turquie quand l'Empire ottoman s'est rétracté comme une peau de chagrin entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. C'est le sort de millions de personnes qui vivent aujourd'hui en Turquie, qui vivaient autrefois dans le Caucase, dans les Balkans ou ailleurs, et qui sont, étant musulmans, sont devenus les citoyens de cette nouvelle Turquie sur un territoire très étriqué par rapport à celui de l'Empire, et qu'on appelle donc des muhadjirs, des réfugiés. Donc Mesut, par son origine familiale, à cette culture balkanique, cette culture d'un exil aussi, et en même temps, il est fasciné par toute la trame culturelle, humaine de l'Empire, et notamment par la cohabitation permanente avec des non-musulmans. Donc Mesut a beaucoup d'amis juifs, beaucoup d'amis chrétiens, arméniens ou autres, puisqu'il y a également les Grecs orthodoxes qui survivent un petit peu à Istanbul. Mesut habite un tout petit appartement à Şişli qui est encombré d'un fatras d'affaires, de tableaux, de livres, d'icônes, de reliques finalement, de cette Turquie, de cet Empire ottoman, de ce Moyen-Orient, qui a vécu durant des siècles comme un univers totalement, fondamentalement, intrinsèquement multilingue, multiconfessionnel. C'est la diversité en réalité qui est la marque de fabrique de cet Orient, du moins. Alors, le terme d'Orient est lui-même bien évidemment compliqué, mais c'est un terme qui a une histoire quand on le pose dans le regard occidental. On pense à l'orientalisme, bien évidemment. Mais enfin, en tout cas, ce qui caractérise cette réalité humaine, c'est ça, cette longue, séculaire histoire de mélange qui, bien évidemment, a été mise à mal par le XXe siècle. Mais Mesut est l'un de ces rares témoins qui maintiennent allumée cette flamme du mélange.
Alors, je ne vais pas suivre les mots qui étaient prévus, du coup, j'ai envie de rebondir. Est-ce que chacun, peut-être avez-vous déjà répondu, Jean-Arnaud Derance, pouvez-vous nous faire part d'une mélancolie? Le livre est baigné d'une forme de mélancolie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui incarne cette mélancolie ou cette nostalgie qui étreint beaucoup des personnes que vous rencontrez, mais que vous avez ressenti vous-même, en face des lieux ou au fil de vos pérégrinations?
Alors j'ai envie de répondre, peut-être c'est pas très original, mais en citant Walter Benjamin et l'ange de l'histoire qui avance en regardant derrière lui. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière d'avancer pour les hommes que de mettre un pas devant l'autre, mais en gardant toujours un regard fixé en arrière sur ce qui a été. Et la mélancolie n'est pas du tout un sentiment bloquant, n'est pas du tout un sentiment ou un état d'esprit réactionnaire, en sens quelque chose qui ferait revenir en arrière. La mélancolie, au contraire, bien souvent, ce qui permet d'avancer. Alors c'est vrai que dans les espaces que nous avons parcourus en naviguant et puis après par d'autres moyens de locomotion, la mélancolie, je crois que Laurent ne me contredira pas sur ce point, elle est omniprésente. Elle est omniprésente parce que cette région, c'est une ligne de faille, de fracture, où des empires, depuis l'empire des Habsbourg jusqu'à l'empire ottoman et l'empire des Tsars, se sont fracassés, où beaucoup d'espérances sont nées. On pense bien sûr aux révolutions, alors qu'elles soient pour le coup socialistes ou autres. Le fascisme aussi peut être une espérance à un moment pour des gens. Je pense au fascisme italien qu'on a longé en commençant notre navigation à Venise ou à Trieste. toutes ces espérances, bonnes ou mauvaises, se sont fracassées, se sont effondrées, et il reste des vestiges, des traces. C'est aussi en prenant la mesure de ces traces que l'on peut avancer. Dans la première partie de notre voyage en Adriatique, sur la côte yougoslave de l'Adriatique, bien évidemment, le sentiment de ce que l'on appelle la yougo-nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie de la Yougoslavie autogestionnaire du maréchal Tito, était très très présente. On a navigué au large de l'île de Brioni, qui était l'île symbole, l'île de Tito, l'île où il recevait d'ailleurs les plus grandes stars du cinéma international. Mais il n'y a pas que ça. En face de l'île de Brioni, il y a une très très belle ville, qui est à la fois une ville romaine, une ville industrielle, une ville de construction navale, Pula, où là tous les chantiers se sont arrêtés. Et on vit bien sûr dans le souvenir de ce qui a été la fierté de la ville, à savoir construire des très beaux bateaux. Alors cette nostalgie, elle est bien sûr partout présente, mais je crois diverses, hein, nostalgie de la Yougoslavie, nostalgie de la diversité de ce qui a pu être un monde multiculturel à l'époque ottomane, même s'il faut pour le coup rien idéaliser, sûrement pas l'Empire ottoman, ça n'aurait pas beaucoup de sens, comme n'importe quel empire du reste. Mais ce sont aussi ces réminiscences et ces sources de mélancolie qui peuvent permettre de mieux dresser le tableau du monde dans lequel on se trouve condamné à vivre, ce monde d'aujourd'hui qui est porteur de, qui parfois essaie de cacher au contraire ce qui a existé. Si on veut avancer dans ce monde, il faut garder en mémoire tout ce qui est là, essayer de le faire, pas revenir, mais de le faire voir, de le sentir.
Alors la mélancolie comme la nostalgie, même si ce sont deux sentiments tout à fait différents, ils se frôlent, ils s'entretiennent, mais ils sont différents, s'incarnent souvent dans des lieux. Ce sont les lieux qui déclenchent les impressions et dans un voyage. Est-ce qu'à tour de rôle, vous pourriez nous faire part de lieux qui expriment cela et aussi vos propres réflexions, des lieux qui ont été des déclencheurs?
Oui, alors effectivement, les lieux que nous avons traversés sont principalement des lieux côtiers, hein, puisque nous arrivions en bateau sur tous ces espaces, hein, ces côtes qui ont finalement, comme le disait Jean-Arnaud, accumulé les séditments de l'histoire au fur et à mesure du passage des empires, des États, des sociétés, des nations, des familles. On a récolté, amassé ces sédiments d'histoire. Et puis nous avons essayé aussi quelquefois de briser la monotonie de la côte, si je puis dire, et puis de rentrer un peu dans ces terres qui nous semblaient, vu de la mer, assez mystérieuses. Et moi, un souvenir très fort que je garde de ces endroits très particuliers où nous sommes arrivés, ça pourrait être la vallée de la Fırtına, qui est une petite rivière qui coule des montagnes anatoliennes et qui se jette dans la mer Noire, un petit fleuve qui se jette dans la mer Noire. Et nous avons décidé de remonter le cours de ce fleuve pour nous perdre dans cette vallée de montagne où vit un petit peuple assez méconnu qui s'appelle les Hamshön, qui est un peuple d'origine arménienne, d'après ce que les gens disent sur place, converti à l'islam il y a plusieurs siècles. Et finalement, les Hamshön ont gardé une identité, une culture, une langue bien particulière, sous le vernis imposé par l'État turc au début du 19e siècle. Les Hamshön ont gardé cette culture tout à fait spécifique. Et nous avons eu la chance de passer une soirée ou deux dans cette vallée avec des gens de la vallée qui croient toujours aux esprits, aux fées de la rivière, etc. Et nous étions sous des cabanes en bois, comme ça, à écouter des légendes anciennes qui venaient affleurer à côté de nous. Et puis, nous écoutions tout simplement les esprits de la nuit. Et je dois dire que cet épisode résonne encore en moi de façon tout à fait particulière.
Alors, un lieu à... Il me semble, je vais citer de mémoire, je crois que c'est Leclésio qui disait que l'esprit des lieux est peut-être plus important que le devenir des hommes. C'est vrai que l'esprit des lieux est quelque chose d'essentiel. On a bien sûr, en naviguant, croisé pas mal au large de pas mal d'îles. Alors moi, j'aurais envie de choisir une île, par exemple l'île de Vis, en mer Adriatique, une île que les Italiens appellent Lissa, mais Vis est son nom croate. C'est une île vraiment plantée au milieu de l'Adriatique, donc assez éloignée des côtes croates, un peu plus proche quand même de la côte orientale que de la côte italienne, mais bon, tout de même très éloignée du rivage, il faut plusieurs heures de navigation pour y arriver, à peu près à mi-distance sur un gradient nord-sud. Une île qui est habitée depuis toujours, depuis le néolithique, une île qui a souvent été le théâtre de grandes batailles navales, de batailles. Pour citer toutes les batailles qui ont eu lieu au large de l'île, il y a certaines ont opposé les flottes de Pompée et de César. Après, il y a eu la grande bataille entre les marines autrichiennes et italiennes dans les années 1860, la bataille de Lissa. Et puis après, il y a les batailles de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également eu des épisodes guerriers à l'époque des guerres napoléoniennes, d'ailleurs, j'oubliais. Durant la Seconde Guerre mondiale, Vis est très vite devenue une place forte des partisans de Tito, mais aussi de la marine britannique, donc qui brisait les défenses maritimes nazies. Et c'est à ce titre que Vis a accueilli durant près d'une année le quartier général des partisans. Alors il y avait à la fois des marins britanniques et puis les chefs de la résistance communiste qui étaient sur cette petite île. Une petite île où ne vivent aujourd'hui que 3 000 personnes. Il y a trois, comment dire, il y a deux agglomérations, deux petits villages de pêcheurs, Vis et Comija, et puis quelques villages. C'est donc un tout petit monde, mais qui était au centre du destin géopolitique d'une bonne partie de l'Europe. C'est aussi ça un petit peu cet esprit des lieux qui amène certains lieux à jouer de manière assez récurrente, finalement, une importance un petit peu surdimensionnée. Nous, on est arrivé à Vis. Une nuit de tempête, une nuit de Bora. La Bora, c'est ce vent du nord, c'est un vent katabatique, c'est-à-dire un vent de terre qui se forme dans les montagnes du nord des Alpes, ou même au-delà, et qui descend comme une bourrasque sur la mer Adriatique. Quand la Bora souffle, ça ne sert à rien d'essayer de remonter la mer, c'est juste impossible, surtout en voilier, mais même un autre bateau ne peut pas vraiment s'y aventurer. Donc on a descendu l'Adriatique extrêmement vite et on est arrivé, je ne sais plus, à 3-4 heures du matin, dans le port de Comija, qui est le port le mieux abrité de l'île sur la côte sud. On a réussi à mettre le navire à couple d'un chalutier, je me souviens, et puis on s'est reposé complètement épuisé. Le problème, c'est que le coup de vent. Que la Bora s'est transformée plutôt en très sérieux coup de vent, avec plusieurs jours de tempête. On était au début du mois de mars. La Méditerranée et l'Adriatique ne sont pas toujours des mers calmes, des mers d'huile, hein, contrairement à ce que certains peuvent croire. Ça peut être des mers très dures. Et là, on s'est retrouvé dans cette situation particulière où, durant toute une journée, l'île était battue par une tempête de tous les diables. On avait dû donner du mou pour éloigner le bateau du quai, donc on ne pouvait pas descendre de notre bateau, de notre voilier. L'île elle-même était coupée du monde puisqu'aucun bateau ne pouvait y arriver. On était dans une sorte d'insularité au carré, à attendre que les éléments se calment. C'était, je m'en souviens très bien, le 8 mars. Et le 8 mars, vous savez, très marqué dans tous les pays socialistes et post-socialistes. La journée des femmes, il y a des traditions de s'offrir des fleurs. On a réussi juste à faire une toute petite sortie où il y avait quelques Iliennes, quelques Iliens, quelques Iliennes, quelques habitants de l'île qui essayaient d'échanger des fleurs, mais de manière extrêmement discrète, tant le vent soufflait fort. Donc voilà, peut-être ce lieu qui à la fois est vraiment un lieu qui a joué un rôle étonnant dans l'histoire, et puis nous, sur ce lieu, dans notre petite aventure, pour nous importante, parce que c'était sûrement la plus forte tempête qu'on ait essuyée durant ce voyage, mais en même temps, comment dire, une péripétie extrêmement banale, parce que des tempêtes, il y en a par définition tous les ans, c'est donc ni la première ni la dernière que connaît l'île de Vis.
Alors justement, ce qui est frappant dans l'ouvrage, c'est que vous êtes à la fois dans l'instant, vous le vivez pleinement, vous rencontrez des êtres de chair et de sang avec lesquels vous échangez, qui ont des émotions particulières qui sont celles du moment, mais vous venez aussi avec vos connaissances. Vous venez avec des connaissances historiques, avec des connaissances géographiques, avec une profondeur d'analyse dont vous ne parvenez néanmoins pas à vous départir, mais c'est heureux. On sent qu'à chaque fois que vous arrivez dans un lieu, vous arrivez aussi avec une connaissance historique, mais aussi avec des spectres qui sont déjà là, des souvenirs qui sont ceux de l'humanité et de l'histoire. À quel moment ces spectres se sont manifestés avec le plus de vivacité?
Alors, je dirais que ces
Alors,
spectres nous accompagnent un peu toujours dans notre métier de journaliste. On fait partie, je l'espère, de ces journalistes de terrain, qui avancent et qui s'engagent à rencontrer les gens pour raconter leur histoire. Hein. C'est ça, pour moi, la conception du journalisme. C'est permettre à des gens qui n'auraient pas eu l'occasion ou la possibilité de raconter leur histoire au plus grand nombre, eh bien, leur permettre de le faire. Donc, quand on rencontre, je dirais, des gens, quand on recueille leur histoire, c'est leur histoire continue a posteriori de nous suivre. C'est vrai que c'est des régions où l'on travaille depuis maintenant une quinzaine d'années pour moi, un peu plus pour Arnaud. Donc finalement, on a accumulé le poids de ces histoires nous-mêmes, le poids de ces souvenirs qui nous accompagnent, je dirais, en permanence dans notre travail et puis dans des voyages comme celui-ci. Alors, dans ce voyage, il y a des endroits où on était déjà allé, où on travaille beaucoup, comme les Balkans, la péninsule balkanique. Il y a des endroits où on n'était jamais encore allé, en tout cas pour ma part, en Géorgie, en Ukraine, etc. Ce sont également des endroits que j'ai beaucoup fréquentés après ce voyage, puisque j'ai été correspondant ensuite en Ukraine pendant les événements de Maïdan et pendant la guerre, etc. Donc, si vous voulez, la mémoire même de ce voyage et des émotions qu'on a ressenties à ce moment-là, pour moi, en tout cas, ce mélange avec finalement les émotions que j'avais ressenties avant et que j'ai ressenties après, et éventuellement avec les histoires et les émotions des gens avec qui j'ai parlé. Donc, je dirais que c'est ça un peu l'essence du métier de journaliste et puis d'écrivain, quand on a la possibilité d'écrire des livres, c'est absorber les histoires des gens, essayer de les restituer du mieux qu'on peut, s'enrichir nous-mêmes de tous ces sédiments. Et puis, pour raconter l'histoire, non pas du monde, mais peut-être d'un village, d'une rue, d'une cour, d'une personne, le destin d'une famille. Voilà, c'est modestement, je dirais, la mission que nous essayons de remplir tous les jours, tout simplement parce qu'elle nous plaît.
Ce qui est frappant en lisant votre ouvrage, j'y pense quand vous parlez des familles, c'est qu'on a vraiment le sentiment que... les personnes, les individus qui habitent ces contrées ne sont pas, comme souvent en Occident, seulement des individus, mais qu'ils s'inscrivent dans une histoire, dans une lignée, que le poids de la mémoire est extrêmement important et que donc le rapport au temps est tout à fait différent de celui qu'on peut vivre ici.
Oui, alors ça, c'est un
point... Oui, tout à fait.
Vous avez raison de le souligner. Vous avez raison de le souligner. Je crois qu'il y a une relation au temps qui est très différente en Europe occidentale et dans une large partie du reste du monde, notamment l'Europe orientale ou ce que l'on appelle le Proche et le Moyen-Orient. Tout simplement parce que en Europe occidentale, ce qu'on appelle l'histoire est quelque chose qui est essentiellement une discipline scolaire et académique qui répond à des critères de scientificité, certes, mais qui donc est transmise à l'école. Fondamentalement. Dans cette autre Europe, les États ont toujours une légitimité douteuse. Donc, ce qui est essentiel dans l'histoire et l'identité des individus, c'est des récits qui se transmettent dans l'intimité familiale. Alors, c'est vrai de manière évidente pour les minorités qui partent du principe que l'histoire qui va être enseignée à l'école n'est pas la leur, mais d'une manière générale, parce que qui est minorité, on est un jour pour cesser de l'être le lendemain et le redevenir le surlendemain. C'est toujours un statut relatif, celui de minorité. Il y a une inadéquation entre les États, les territoires, qui entraîne une défiance et qui fait que l'identité de chacun s'inscrit d'abord dans un contexte familial, communautaire, où, bien évidemment, la mémoire transmise de génération en génération joue un rôle beaucoup plus important qu'en Europe occidentale. Ça, je crois que c'est effectivement une différence évidente dans la relation à l'histoire. Après, c'est vrai que ces espaces sont aussi des espaces qui ont toujours été marqués par des exodes, des exils, donc des mélanges de populations. L'histoire de la Méditerranée, c'est depuis toujours des gens qui vivent sur une côte et qui, pour une raison X ou Y, ça peut être une guerre, ça peut être une famine, ça peut être une maladie ou que sais-je, partent pour aller sur la côte d'en face ou l'île d'en face où elles vont trouver une manière de s'entendre plus ou moins bien avec les populations qui sont déjà là. Ça, c'est l'histoire de la Méditerranée. Et cela fait que sur tous ces rivages, il y a ces mémoires différentes qui se superposent comme les couches d'un palimpseste. Une découverte de ce voyage ou un rappel qui nous est arrivé tout de suite, c'est que si les hommes et les femmes naviguent depuis toujours, ou presque toujours, enfin en tout cas depuis le néolithique, c'est certain, et même probablement avant, naviguer, une des premières activités à fabriquer un bateau, c'est un des premiers artefacts de l'humanité. Depuis que les hommes et les femmes naviguent, ils ont traversé les mers, mais l'immense majorité des navigations n'ont pas été des navigations de plaisir, de plaisance. C'était une navigation forcée pour se nourrir, pour fuir la guerre. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens qui naviguent en Méditerranée, je pense bien sûr aux réfugiés d'aujourd'hui, ne le font pas par plaisir.
Laurent Gélin, vous souhaitiez réagir, je l'ai vu au début.
Non, je suis fondamentalement d'accord avec ce que disait Jean Arnaud. Effectivement, le cadre étatique des empires, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire tsariste, jusqu'à la fin du 19e, début du 20e, était essentiellement des cadres répressifs, c'est-à-dire on était sujet de l'Empire avant d'être citoyen d'un État comme on peut l'être aujourd'hui, par exemple en France. Et donc la mémoire collective des familles, la mémoire, l'histoire du temps passé se transmettait avant tout au sein de la famille et beaucoup moins dans des structures étatiques comme l'école républicaine que nous avons par exemple en France. Donc il y avait aussi un besoin à l'intérieur de la famille de transmettre l'histoire, de transmettre les légendes, de transmettre les enseignements et aussi ce cadre familial servait de référence à la fois pour pouvoir travailler, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir envisager sa vie. On envisageait sa vie dans le cadre familial et autour de la famille avant de l'envisager par rapport à des cadres étatiques ou impériaux.
Ce n'est peut-être qu'une anecdote, mais elle me semble révélatrice. Moi, j'ai eu le sentiment que tous les personnages que vous avez rencontrés seraient parfaitement capables de citer non seulement le nom et le prénom de leurs parents, mais aussi de leurs grands-parents, voire de leurs derrière-grands-parents, voire au-delà. Est-ce que je me trompe ?
Sûrement pas. C'est très probablement le cas. Ou en tout cas très largement. Alors un exemple peut-être un petit peu extrême pour le coup, et qui marque aussi dans notre déplacement une sorte de point extrême, c'est quand nous arrivons, alors là c'est l'endroit, le moment où c'est le plus éloigné de la côte, on arrive aux confins des steppes du Kouban, sur les contreforts du Grand Caucase. On arrive à Maïkop, qui est la capitale de la République autonome des Adygués, qui est un sujet de la Fédération de Russie. Enfin voilà, là on rentre dans des détails administratifs un peu complexes. Mais il se trouve que dans cette République des Adygués sont revenus vivre à la fin du XXe siècle, dans les années 1990, des Tcherkesses du Kosovo, qui avaient été chassés du Caucase par la conquête russe. Enfin, les ancêtres avaient été chassés du Caucase par la conquête russe dans les années 1850-1860, qui ont erré un petit peu dans l'Empire ottoman avant de s'installer au Kosovo, où ils ont vécu donc 140 ans à peu près, et qui, dans les années 1990, alors que la situation au Kosovo se tendait, se détériorait entre Albanais et Serbes, se sont dit, finalement, nous, les Tcherkesses, on est pris entre le marteau et l'enclume, nous n'avons pas notre place dans cet affrontement, peut-être ferions-nous mieux de revenir sur la terre des ancêtres, dans le Caucase. Et là où l'histoire devient assez surprenante, c'est que les autorités de la Fédération de Russie de l'époque, donc c'était M. Yeltsin qui était président pour le coup, ont dit, oui, revenez, bien sûr, vous êtes les bienvenus, et il y a même eu un petit peu de moyens pour faciliter leur retour. Et il y a donc plusieurs milliers de ces Tcherkesses du Kosovo qui sont arrivés dans la capitale de cette république un peu improbable, dans cette ville, cette petite ville, on est vraiment au fin fond de la province russe, si vous voulez, à Maïkop. Et là, ils ont, alors certains vivent toujours pas très bien dans des centres collectifs, d'autres ont bénéficié de programmes, ils ont pu construire une sorte de lotissement de banlieue, c'est un peu ça, c'est l'aoul de Maferhabel. Et nous, on arrive, alors là, on avait dû quitter l'orbe des rivages, prendre un autocar depuis Sochi pour aller jusqu'à Maïkop. On avait arrivé le soir, on avait dormi quelque part. Et au matin, on prend un taxi de bonne heure et on arrive dans ce lotissement de banlieue. On frappe à une porte et il se trouve qu'on parle bien sûr pas le tcherkesse, pas l'adiguéen, Mais la langue qui nous était la plus évidente était le serbe. On se débrouille aussi en russe, mais enfin, on parle mieux le serbe. Donc, on dit Dobrdan aux gens qui nous ouvrent bonjour en serbe. Ils sont un petit peu surpris, mais aussitôt, ces tcherkesses nous répondent en serbe. Et puis, on entre chez eux, on boit le café et on commence une discussion comme si on se connaissait de toujours avec ces gens-là. Parce qu'on était avec des gens qu'on n'avait jamais vus. Mais l'enjeu de la discussion, comme l'enjeu de toute discussion sérieuse dans les Balkans ou dans le Caucase, était de retrouver nos connaissances et nos amis communs. Et en cherchant un petit peu, très vite, on a constaté qu'on avait bien évidemment des connaissances communes, qu'on connaissait les mêmes lieux, et on a échangé des nouvelles, et on est arrivé à parler du cousin qui était parti en Allemagne, ou que sais-je, parce que, vous le savez bien, entre gens de bonne volonté, le monde est quelque chose d'extrêmement définitivement petit, même au fin fond de la steppe.
Nous sommes tous des descendants d'Henri IV.
Oui, d'ailleurs, c'est...
Non, je vous en prie. C'est une mauvaise plaisanterie. Je sais. Nous sommes tous des descendants d'Henri IV, même au fond de la steppe.
Tout à fait.
Je vous écoute, Larangère.
Non, d'ailleurs, c'est étonnant parce que durant cette discussion avec ces tcherkesses de Maïkop revenus sur la terre de leurs ancêtres, on a notamment évoqué le village qu'ils habitaient jusqu'à 1999 et qui est un petit village qui se trouve à côté de la ville de Mitrovica au Kosovo, dans la plaine du Kosovo entre Mitrovica et Pristina. Et grâce, je dirais, à nos voyages réguliers dans la région, on a été en mesure de leur apporter, je dirais, les dernières nouvelles du village, de leur expliquer que la maison du boulanger était toujours debout, que celle du boucher s'était effondrée, etc., etc. Donc d'apporter en quelque sorte des nouvelles fraîches des Balkans à ces tcherkesses du Kosovo revenus en Russie en 99, ce qui est quand même une mission tout à fait honorable pour des voyageurs comme nous sommes.
Des nouvelles du village, des nouvelles de cette ville de Mitrovica qui avait servi un petit peu de point de concentration au tout début du XXe siècle pour d'autres tcherkesses qui étaient arrivés, des cosaques tcherkesses qui étaient dans les armées blanches qui sont arrivés à Mitrovica et qui ont fait tout un point de fixation balkanique au cœur du Caucase. Preuve une fois de plus que le monde est petit et que les fils des histoires, si on essaie de les tirer, finissent toujours par s'emmêler à un moment ou l'autre.
Et surtout que dans cette région, on comprend que ce sont des univers. Cette région-là est un endroit particulier où différents univers se superposent et se mêlent sans cesse. Alors je sais que vous détestez cette expression de complexité l'un et l'autre à propos des Balkans, que c'est comme un lieu commun. Ah, les Balkans, c'est complexe. Je suis navré de vous le dire, mais néanmoins, à la fin du livre, on en ressort quand même avec l'idée que c'est complexe, mais que du coup, c'est intéressant.
Bon, moi, ce que je réponds toujours, c'est que franchement, il n'y a aucune, surtout pour un Français, il n'y a aucune histoire plus compliquée, plus exotique que l'histoire suisse. Bon, par contre, effectivement, je ne sais plus quel grand écrivain latino-américain disait « Le drame de la Suisse, c'est que les Suisses ont manqué l'occasion d'avoir une tragédie nationale le jour où Guillaume Tell n'a pas tué son enfant ». Bon, c'était un grand écrivain latino-américain qui disait ça, son nom m'échappe pour le coup. Mais je crois qu'effectivement, La complexité, c'est souvent une histoire de différence. L'histoire française est très compliquée, elle est loin d'être simple, sauf qu'elle est naturellement beaucoup plus familière aux Français. L'histoire des Balkans nous paraît différente parce qu'il y a des référents, il y a des logiques qui sont effectivement différentes. Il n'y a pas plus de complexité, la diversité des langues, des religions, n'est pas forcément en soi un facteur de complexité. Ce qui est important, c'est de comprendre comment cette diversité peut se vivre, ce qui se fait toujours dans une dialectique entre cette réalité sociale diverse et le ou les pouvoirs centraux. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qui a terriblement complexifié et noirci aussi la réalité des Balkans du Caucase, ce sont les événements du XXe siècle. Des événements du XXe siècle où cette réalité de la diversité était mise à mal par l'imposition de modèles nouveaux, notamment celui de l'État-nation occidental, par l'obligation aussi de choisir un camp dans les différents affrontements qui ont jalonné tout ce siècle, ce qui a eu pour effet de transformer en opposition ce qui n'était que les nuances d'un tableau complexe et qui brusquement ces nuances qui faisaient la richesse du tableau sont devenues des motifs de conflit, ce qui n'avait rien d'obligatoire, d'inscrit par avance. Il n'y a pas de fatalité balkanique pour le coup, ni caucasienne. Il y a une histoire qui s'est précipitée au XXe siècle avec ses particularités et qui donne aujourd'hui, bien sûr, à ces régions une apparence de, effectivement, de manuscrits complexes, parfois de champs de ruines aussi, parce que ces déchirements ont souvent été violents. Et pourtant, malgré tout, sur ce terrain, il y a des gens qui vivent et qui pensent que ce sont toujours de bons endroits pour vivre, qui savent que la terre est toujours riche et donne de très très beaux fruits, comme ces Tcherkesses qui, habitués aux petits espaces du Kosovo, s'extasient de l'immensité de la plaine qui s'ouvre à eux et qui font du coup pousser dans leur potager des tomates, des courges complètement énormes, 10 fois plus grosses qu'au Kosovo. C'est pour eux, ils n'arrêtaient pas de nous le répéter, c'est un motif d'émerveillement.
C'est très gentil de terminer par une note d'émotion, après avoir néanmoins fait comprendre que les Balkans, comme toute société, sont une équation. Celle-ci semble néanmoins un petit peu plus complexe, désolé, que les autres, parce qu'il a beaucoup de données. Il y a des équations avec plus ou moins de données. Ici, il y en a beaucoup. Alors, ça peut faire quelque chose de stable et on peut résoudre. Mais en plus, ce que l'on sent, c'est que c'est une terre extrêmement passionnée. Les gens que vous avez rencontrés sont des gens passionnés, pris par l'émotion, ce qui fait tout le charme de ces contrées et de bien d'autres sur Terre. Hein. J'en fais pas l'alpha et l'oméga et l'exclusivité de cette contrée, mais toutefois, ils ne sont pas tièdes. Ils ne sont pas tièdes, tous ces gens, et c'est pourquoi je voudrais vous demander de parler des émotions qui sont ressenties sur place, des émotions vécues par les gens que vous avez rencontrés, et celles ressenties par vous, du coup, parce que quand on voyage comme ça, nous sommes des éponges à émotions.
Ah, les émotions, oui, les émotions vont et viennent, je dirais, pour nous depuis 15, 20, 25 ans. C'est vrai que on sait arroger le droit, je pense, au fur et à mesure de ces années et de ces expériences, de faire aussi un peu partie de cette région. On sait arroger l'autorisation d'être une partie de ces Balkans que nous fréquentons tellement souvent. Donc c'est dur de parler de ces émotions, de parler des émotions des balkaniques quand on se considère aussi un peu soi-même balkanique. Moi, ce que je retiens, balkanique ou résident de la mer Noire ou caucasien, ou etc. Moi, ce que je retiens souvent de mes voyages et de mes expériences dans la région, c'est cette facilité ou cette nécessité qu'ont les gens à parler, à prendre du temps pour parler. Et ça, c'est une constante, je pense, dans la région, c'est de s'accorder la nécessité, l'obligation de s'asseoir autour d'une table avec, pourquoi pas, un petit verre d'alcool, et puis de discuter, de refaire le monde, parler parfois de toujours la même chose. Hein. Il y a des gens qu'on retrouve à intervalles réguliers dans nos reportages ou dans nos voyages qui nous parlent concrètement toujours de la même chose. Mais ce n'est pas forcément un problème. Il faut le geste même de s'asseoir, de se reconnaître comme des interlocuteurs respectifs, de parler d'un sujet ou d'un autre, prend par lui-même une importance très spécifique. Le récit aussi dans ces régions a une courbure tout à fait étrange. En Occident, c'est vrai qu'on a l'habitude, pour décrire une situation, de partir d'un point A pour aller à un point B. Dans tout l'Est de l'Europe, on va plutôt former des cercles qui vont s'enchevêtrer. On va revenir effectivement aux expériences passées. On va évoquer, pourquoi pas, des voisins ou des histoires qui n'ont rien à voir avec le sujet abordé, mais au bout d'une heure, deux heures, trois heures, finalement, on finira par retomber sur ses pattes, par une dernière circonvolution, un dernier cercle. On arrivera finalement à connaître le point de vue de la personne sur une question ou sur une autre, après avoir accompli comme ça des cercles et des boucles à l'infini. Et c'est une structure narrative qui en elle-même porte en elle-même déjà un intérêt tout à fait extraordinaire, au-delà même de l'information qu'elle veut véhiculer. Cette structure de boucle dans la narration raconte par elle-même déjà une histoire.
Oui, on a l'impression de ressac. On a l'impression que ce sont des peuples qui vivent aussi avec un ressac, ce qui ne signifie pas du tout un immobilisme, du tout, hein, mais on part d'un point, on avance, et puis on reprend des sédiments anciens, on les remet devant, et comme ça, on avance dans une sorte de tourbillon permanent qui enrichit.
Oui, alors le ressac, c'est pas forcément du ressassement, ça vous avez raison de le souligner. C'est plutôt, comment dire, redésigner en permanence un univers de connaissances, de choses et de personnes connues. Et c'est à partir de cela qu'on peut essayer de laisser sa place à la nouveauté ou à l'invité, à celui qui arrive. On est tout de même dans des sociétés qui sont aussi des sociétés traditionnelles où l'hospitalité est quelque chose de sacré. C'est toujours... la personne qui vient, celui qui vient est toujours un hôte sacré. C'est quelque chose de très important. Et de ce point de vue-là, quand on est voyageur, encore plus quand on est marin, on a cette possibilité d'arriver tout de suite, d'être accueilli, d'être admis dans l'intimité, d'être admis à la table où l'on partage le repas, où l'on partage le moment de vie commune. Moi, j'ai un souvenir, si on veut parler de sentiments, d'émotions. J'ai ce souvenir des journées que nous avons passées sur l'île de Syros, en Grèce. On est arrivé à Syros au moment des fêtes de Pâques. On a dû arriver le jeudi soir, je pense, le jeudi saint ou le mercredi, peut-être plutôt à Syros. Et donc, on a vécu toutes les fêtes pascales sur l'île de Syros, dans les Cyclades. Dans le monde, en Grèce, les fêtes de Pâques sont bien sûr très très importantes, plus encore, je pense, plus importantes qu'elles ne le sont dans le monde catholique, à la fois d'un point de vue religieux, d'un point de vue social. C'est vraiment le moment où les familles se retrouvent, un petit peu peut-être comme du côté occidental, ce serait plutôt Noël, là c'est vraiment Pâques qui est important. Et nous, on a fait deux choses durant ces journées du mystère pascal. On est devenus copains avec les musiciens de l'harmonie, de la fanfare de l'île de Syros. Et on les a accompagnés dans plein d'endroits, notamment dans le cimetière où le vendredi midi, la clique joue et où les familles viennent visiter leur tombe. C'est une tradition locale de l'île. Et on était avec les musiciens, c'était mon bus avec eux à sillonner l'île. Et puis on a été bien sûr ensuite invités au repas du dimanche chez des amis que nous étions, enfin des amis que nous connaissions depuis deux jours, bien sûr, trois jours, pour manger l'agneau et avoir ce sentiment, dans ce temps particulier, bien sûr, qui est le temps de Pâques dans le monde grec, d'une communion naturelle, évidente, totale. Et là encore, on a terminé ces fêtes de Pâques par une fête chez d'autres amis, dans une maison qui surplombait l'île. Et là, on avait l'impression, il y avait du vent à nouveau, on avait l'impression, ce qui semblait nous parler, revenir, c'était aussi des esprits beaucoup plus anciens, ceux des vieux dieux de l'époque, des vieilles civilisations, des Cyclades, pré-héléniques même. Bon, alors ça, peut-être c'est nous qui avons un trop fort penchant d'historien ou une trop forte nostalgie historienne, que sais-je, ou mélancolie, peu importe. En tout cas, c'est toutes ces émotions-là, moi, que j'ai ressenties durant ce passage à Syros.
L'ensemble de ce tourbillon d'émotions, vous est-il arrivé de ressentir des regrets? C'est un peu curieux de ressentir des regrets alors qu'on est en plein dans un voyage, mais alors, comme l'émission touche à sa fin, en partant, est-ce que vous avez eu des regrets? Je suis navré.
Ouais, le seul regret que je pourrais avoir, mais qui est un regret qui m'accompagne, je dirais, en permanence, c'est de ne pas pouvoir avoir vu ces lieux il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, de ne pas être autorisé, je dirais, par la biologie humaine à pouvoir, je dirais, m'assurer par moi-même de la véracité des souvenirs que nous collectons ou de la véracité des images que nous imaginons. Voilà, ça c'est un regret, mais je dirais que c'est un regret que j'ai de façon générale et qui n'est pas propre à ce voyage. Après, il peut y avoir aussi le regret de s'arrêter. Tous les voyages ont un jour une fin, et c'est comme ça qu'ils sont, je dirais, nécessaires et beaux. C'est quand aussi ils doivent s'arrêter. Nous, on s'est arrêté pour le coup dans le delta du Danube, qui est l'endroit finalement où les fleuves, les eaux de ce grand fleuve, qui est le plus grand fleuve européen, se jettent dans la mer Noire. Et D'ailleurs, cette rencontre entre les eaux douces du Danube et l'eau salée de la mer Noire a donné le titre de l'ouvrage « Là où se mêlent les eaux ». Donc, on a choisi finalement ce delta pour s'arrêter parce que finalement, il y avait deux solutions, soit continuer indéfiniment à faire des tours dans l'eau, soit rentrer par le Danube jusqu'à la France. On a décidé d'arrêter le voyage dans ce delta et puis de se laisser dériver dans les barques des pêcheurs du delta pour faire un festin de poissons. Voilà, c'est comme ça qu'on a terminé ce voyage. Et on l'a terminé, je dois dire, sans regret, parce que tous les voyages ont une fin et ça permet aussi d'en imaginer de prochains.
J'ajouterais juste pour poursuivre un peu ce que disait Laurent, un voyage comme ça, un voyage où l'on cabote, c'est un voyage où on va vivre tous les jours ou tous les deux ou trois jours la petite mort du départ, où on va quitter des gens. Quand on quitte un port, on est forcément, et c'est normal, et il est bon qu'on éprouve un peu de tristesse, des gens qu'on quitte, des lieux que l'on quitte, avec toujours cette question, est-ce qu'on y reviendra un jour ? Dans certains cas, alors parfois on peut quitter un endroit en se disant « Dieu veuille que je n'y revienne jamais ». Mais enfin bon, ça c'est quand vraiment ça n'a pas marché. Le plus souvent, au contraire, on a quitté beaucoup d'endroits en se disant « Allez, ça serait bien qu'un jour, ça serait vraiment ce qu'on peut souhaiter de plus, y revenir un jour ». Mais c'est forcément un moment de tristesse de quitter un lieu, mais en même temps, c'est en quittant un port que l'on peut aller au port d'après. Donc, un voyage de cabotage, c'est une manière de dresser dresser ce sentiment de perte et de retrouvailles qui nous permet toujours de nous remettre en avant. Ce qui parfois est compliqué, mais comme le disait Laurent, ce qui relativise l'idée d'arriver. Si vous voyagez en avion, vous partez du point A, vous arrivez au point B, puis c'est fini. Et éventuellement, tout ce qui peut vous rester, c'est le regret d'avoir, d'être déjà arrivé. Rien d'autre. Là, on a bien sûr à un moment, il était évident que le voyage devait s'arrêter ou faire une pause durable à ce moment-là, mais après que nous ayons vécu des dizaines de fois cette expérience de s'en aller, de quitter, de quitter des gens, d'en découvrir de nouveau, de quitter des lieux, d'en découvrir de nouveau. De ce point de vue-là, le voyage n'a pas vraiment de terme.
Ah oui, le voyage n'a jamais de terme, car la vie est un voyage, nous sommes tous de passage. Toutefois, on sort forcément transformé d'un voyage comme celui-ci, non ? Quel est l'enseignement que vous en retirez ? On n'est pas tout à fait le même au moment où on part, au moment où on revient. On s'est enrichi, on a découvert de nouvelles perspectives, on a découvert de nouvelles idées. Quel enseignement principal avez-vous tiré de ce voyage, à la fois en termes professionnels, parce que vous connaissiez ces terres, mais vous les avez découvertes différemment.
Oui, alors je pense que un voyage comme ça nous a permis certainement de redécouvrir et d'apprendre déjà beaucoup de choses, d'aller au-delà de ce que peuvent faire ce que pouvait faire notre travail de journaliste. Mais je pense que le plus important, c'est surtout de sortir de ce simple rôle de journaliste, qui n'est d'ailleurs pas toujours facile à tenir, pour être perçu autrement. Être perçu d'abord comme un marin, comme quelqu'un donc qui a fait le choix de se soumettre à des éléments parfois contraires, qui arrive dans un port, qui a besoin d'une série de services, d'assistance, et qui uniquement après avoir qu'on ait attaché le bateau peut commencer à poser des questions, à discuter avec des gens et à retomber dans ce travers des journalistes qui consiste toujours à poser des questions. De ce point de vue-là, c'est une expérience qui était importante. Est-ce qu'on est transformé par un voyage ? Vous l'avez dit vous-même, la vie est un voyage, donc on est toujours transformé en permanence. Je crois juste qu'un voyage de ce type donne l'envie d'un autre voyage, et c'est très bien qu'il en soit ainsi.
Laurent Gélin, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, je crois que Jean-Arnaud a résumé l'essentiel. L'enseignement d'un voyage comme celui-ci, c'est aussi peut-être que pour faire du journalisme et pour raconter des histoires, on a aussi parfois besoin de prendre le temps et le rythme de la navigation, ce rythme lent, soumis aux éléments. Les marins répètent toujours, on sait quand on part, on ne sait jamais quand on arrive. Ce rythme-là est aussi adapté au, je dirais, au compte et aussi parfois à l'information, hein. Aujourd'hui, on fait un métier où tout doit aller très vite, où l'actualité impose, je dirais, ses règles et ses normes. Et c'est aussi important parfois de pouvoir faire un pas de côté. Alors, c'est un luxe, hein, un luxe qu'on a choisi de s'offrir, mais c'est un choix que l'on a fait et qui, ma foi, je dirais, nous transporte ou nous accompagne pendant des années ensuite. Donc, de ce point de vue-là, c'est un choix tout à fait bénéfique.
Bien. Vous avez parlé d'un prochain voyage, il y en a de programmés.
Alors, on est tout le temps à voyager, on est tout le temps à revenir dans ces Balkans. Disons, pour nous, l'aventure un petit peu nouvelle, c'est un nouveau livre qui sera par lui-même un voyage, parce qu'écrire, c'est aussi s'engager dans une aventure qui est très similaire au voyage. Même si c'est l'activité d'écrire un voyage a priori immobile, on est voilà, devant son écran ou son carnet de notes, mais c'est un voyage tout de même. Et là, on a donc commencé un nouveau livre qui sera un voyage, une série de grandes boucles dans les Balkans intérieurs, les Balkans montagnards, les Balkans centraux, donc loin de la mer, pour le coup, loin de la côte, un univers que nous arpentons depuis longtemps. Et là, on va essayer de se laisser dériver au fil d'une série d'histoires qui décrivent justement ces boucles selon cette méthode, enfin, comment dire, ce schéma narratif qu'évoquait Laurent à propos de la manière de raconter des histoires dans la région. Donc ça, c'est le grand voyage dans lequel nous nous sommes déjà engagés.
Écoutez, parfait, nous sommes impatients de le lire, mais il faut faire les choses dans l'ordre, surtout dans les Balkans où c'est déjà complexe. Faisons les choses dans l'ordre, prenons vos impressions dans une chronologie exacte. Et donc j'invite nos auditeurs à se plonger tout d'abord dans votre récit de voyage, là où les eaux, où se mêlent les eaux, dans les ba des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins, par Laurent Gélin donc et Jean-Arnaud Deyrens, aux éditions de La Découverte. Messieurs, merci beaucoup et revenez-nous avec un nouveau livre le plus vite possible.
Merci, avec
Merci.
plaisir.
Thank you.